Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 13 septembre 2023, en direct de Washington. Idrissa Seydoulia, pour commencer les titres. La Libye déplore des milliers de morts dans la ville inondée de Derna, dans l'est du pays. Le séisme au Maroc, les espoirs s'amenuisent, le roi Mohamed VI au chevet de blessés. Niamey dénonce un accord de coopération militaire signé en 2022 avec le Bénin voisin, accusé d'envisager une agression contre le Niger. Au Mali, des groupes armés du Nord attaquent l'armée dans la ville clé de Bourem. Les Républicains à la Chambre des représentants lancent une enquête en destitution du président Joe Biden. Ne manquez pas notre page sport ainsi qu'à la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Libye, au moins 2300 personnes ont péri dans les inondations qui ont dévasté la ville de Derna. Mais les autorités et la Croix-Rouge craignent un bilan beaucoup plus lourd, Mohamed Houmfa.
Selon le porte-parole du service de secours et des urgences libyen relevant du gouvernement de Tripoli, les inondations causées par la tempête Daniel ont fait plus de 2300 morts et environ 7000 blessés à Derna, alors que plus de 5000 personnes sont portées disparues. Toujours selon lui, au moins 65 autres personnes ont été tuées dans la tempête dans d'autres villes et localités dans l'est de la Libye. Les responsables du gouvernement rival qui siègent dans l'est affirment, eux, que des milliers de personnes ont péri à Derna, ville de 100 000 habitants, et que le bilan pourrait dépasser les 10 000 morts. Un responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Tamer Ramadan, a indiqué que les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement. Des routes coupées, des éboulements de terrain et des inondations ont empêché les secours d'atteindre la population qui a dû se débrouiller par des moyens rudimentaires pour récupérer des corps et extraire des survivants sur le point de se noyer. Derna et d'autres villes sont coupées du reste du monde malgré les efforts des autorités pour établir les réseaux de téléphonie mobile et d'Internet.
Pendant ce temps, au Maroc, les espoirs de retrouver des survivants se sont dissipés 4 jours après un séisme dévastateur dans la région de Marrakech. Le roi Mohamed VI a rendu visite à des blessés. Au dernier bilan, le tremblement de terre a fait 2901 morts et 5530 blessés, dit l'Idico.
Le roi Mohamed VI s'est rendu hier au centre hospitalier universitaire de Marrakech. Il a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation pour s'informer de l'état de santé des blessés, selon l'agence de presse marocaine. Volontaires et secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, tentent d'accélérer les recherches pour retrouver d'éventuels survivants et fournir des abris à des centaines de familles qui ont perdu leur maison. Au village d'Ouzrou, situé à 80 km au sud-ouest de Marrakech, des survivants ont improvisé des abris de fortune. Dans la localité d'Amizmiz, à environ une heure de là, des dizaines de survivants sont entassés autour d'un semi-remorque attendant de l'aide alimentaire distribuée par des bénévoles. Les villages les plus proches de l'épicentre du séisme sont toujours inaccessibles en raison d'éboulements et des routes coupées.
Les militaires au pouvoir au Niger ont affirmé hier soir avoir dénoncé un accord de coopération militaire conclu en juillet 2022 avec le Bénin voisin, qu'ils accusent d'envisager une agression contre leur pays au lieu de le soutenir. Ils l'ont annoncé dans un communiqué lu à la télévision nationale, disant avoir appelé à plusieurs reprises au respect des obligations de cet accord, tout en réitérant leur volonté d'éviter l'escalade. Selon Niamey, le Bénin a autorisé le stationnement des militaires mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre le Niger. L'organisation ouest-africaine a brandi la menace d'une intervention militaire au Niger pour y rétablir l'ordre constitutionnel. Des groupes armés du nord du Mali ont attaqué mardi l'armée dans la ville de Bourem, confortant les craintes de reprise des hostilités avec l'État central et de fin de l'accord de paix signé en 2015. Le point avec Rosine Mounezero.
Le cadre stratégique permanent, alliance de groupes armés qui avait signé un accord de paix avec l'État malien en 2015, a indiqué avoir mené une opération sur la ville garnison de Bourem qui s'est soldée par le contrôle du camp et des différents postes avancés. Il y a eu d'intenses combats, puis les hommes se sont retirés, a dit le porte-parole du CSP, Mohamed El Maouloud Ramadan, expliquant que leur objectif n'est pas de rester dans les villes. L'armée malienne, appuyée par l'aviation et des drones, dit avoir repoussé l'attaque. Souleyman Ag Inawa et Abba Hama Ag Asherif, présentés comme les deux responsables de l'attaque, ont été tués et 20 véhicules calcinés. Bourem est sous contrôle des forces armées maliennes. Après des semaines de tensions, la coordination des mouvements de l'Azawad, un des signataires de l'accord de paix dit d'Alger, a indiqué lundi soir se considérer en guerre avec la junte au pouvoir à Bamako.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé hier le lancement d'une enquête pour la mise en accusation du président Joe Biden sur les affaires controversées de son fils à l'étranger. Le point avec Eric Manirakidza.
Je demande à une commission de la Chambre d'ouvrir une enquête formelle en destitution, a déclaré le chef républicain du Congrès, estimant que le dirigeant démocrate avait menti au peuple américain. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé cette enquête, accusant les républicains de recourir à la pire des manœuvres politiciennes extrêmes. Les républicains de la Chambre des représentants, majoritaires depuis janvier, instruisent une série d'enquêtes parlementaires sur les affaires du fils cadet de Joe Biden, mais plusieurs élus modérés du Parti républicain s'opposent toutefois à l'ouverture de cette enquête, de peur de transformer la procédure en exercice purement partisan. Les démocrates disent que cette démarche vise à occulter les démêlés judiciaires qui s'accumulent pour Donald Trump. Cette enquête n'a toutefois, pour l'instant, quasiment aucune chance d'aboutir à la destitution de Joe Biden. Son parti est majoritaire au Sénat, la Chambre qui est appelée à le juger s'il est inculpé par les élus.
Les États-Unis disent vouloir être vigilants quant à l'utilisation par l'Iran des 6 milliards de dollars gelés en Corée du Sud et qui seront débloqués dans le cadre de l'accord conclu avec Téhéran sur un échange réciproque de prisonniers. Nous resterons vigilants, nous surveillerons l'utilisation de ces fonds et nous aurons la possibilité de les geler à nouveau si nécessaire, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Selon Washington, ces fonds ne peuvent servir qu'à des achats humanitaires tels que des denrées alimentaires et des médicaments. Téhéran a cependant affirmé lundi avoir la possibilité d'utiliser pleinement ces fonds débloqués, pas seulement pour acheter des médicaments et de la nourriture. Des drones russes ont visé le sud de la région ukrainienne d'Odessa dans la nuit de mardi à mercredi, endommageant des infrastructures portuaires du district de la ville portuaire d'Ismaël et faisant 6 blessés, a rapporté le gouverneur local. Depuis l'abandon en juillet de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement sa production, la Russie multiplie les attaques dans les régions méridionales d'Odessa et Mykolaïv, où sont situés des ports et plateformes cruciales pour le commerce sur la mer Noire. La Corée du Nord a lancé ce mercredi 2 missiles balistiques de courte portée en direction de la mer de l'Est, a indiqué l'armée sud-coréenne au moment où le dirigeant Kim Jong-un se trouve en Russie pour un sommet avec le président Vladimir Poutine. Ils se sont retrouvés au cosmodrome russe de Vostochny, dans l'est de la Russie, et y échangeant une poignée de main, selon une vidéo publiée par le Kremlin ce mercredi. Cette rencontre pourrait, d'après Washington, déboucher sur un accord de vente d'armes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine. Au Vietnam, un incendie dans un immeuble d'habitation de la capitale Hanoï a tué durant la nuit plusieurs dizaines de personnes, a indiqué ce mercredi un média d'État vietnamien, c'était un premier bilan des autorités locales. Une quinzaine de personnes ont été conduites vers des hôpitaux, dont des dizaines de morts. C'est un incendie très grave, selon l'agence de presse officielle du Vietnam. 5 policiers inculpés pour meurtre après le passage à tabac mortel en janvier à Memphis de l'Africain-américain Tyree Nichols font désormais l'objet de charges au niveau fédéral, a annoncé mardi le ministère de la Justice. Cette affaire dans laquelle la Maison-Blanche s'est fortement impliquée avait fait craindre un embrasement social. Rendu public, des vidéos de l'arrestation de Tyree Nichols avaient montré les 5 policiers, eux aussi noirs, battant le jeune homme de 29 ans sans relâche. La Minute Éco, Rosine Mounezero.
Le gouvernement rwandais a signé mardi un accord avec une start-up germano-canadienne pour construire un réacteur nucléaire civil expérimental afin de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Le réacteur sera prêt à être testé en 2026, selon la start-up Duo Fluid Energy. Ces réacteurs peuvent être utilisés pour produire de l'électricité, de l'hydrogène et des carburants de synthèse à des coûts inférieurs à ceux des combustibles fossiles, a affirmé le PDG de la compagnie. En République démocratique du Congo, des multinationales sont accusées de s'être livrées à des expulsions forcées, menaces, actes d'intimidation et tromperies contre les populations locales sur des sites d'extraction de cobalt et de cuivre dans le sud-est, déplore Amnesty International dans un rapport publié mardi. Ces populations se voient forcées de quitter leur logement et leurs terres pour permettre l'expansion de projets miniers industriels à grande échelle, selon ce rapport. Le gouvernement tanzanien envisage d'investir 4,7 milliards de dollars pour former 500 fonctionnaires de l'État aux technologies de l'information et de la communication, indique l'agence Ecofin. La formation portera entre autres sur la cybersécurité, la conception et l'administration de réseaux, l'administration de logiciels, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et l'analyse des mégadonnées.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les 2 derniers qualifiés pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire.
Oui, il s'agit du Cameroun et de la Namibie. Les Lions indomptables ont battu le Burundi 3-0 à Garoua dans le match de la dernière journée du groupe C. Brian Mbeumo, Christopher Rouault et Vincent Aboubakar sont les buteurs. Grâce à cette victoire, le Cameroun finit premier de sa poule avec 7 points devant la Namibie, deuxième avec 5 points et aussi qualifié. La compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire.
Des matchs amicaux se sont aussi disputés hier.
Le Maroc a disposé du Burkina Faso 1-0 à Lens en France. Le Sénégal s'est incliné 0-1 devant l'Algérie. La Tunisie a battu l'Égypte 3-1, même score en faveur du Ghana qui affrontait le Libéria. L'Angola a perdu 4-0 face à l'Iran, 1-0 pour l'Afrique du Sud face à la République démocratique du Congo, même score en faveur du Soudan du Sud face au Kenya.
Le match Côte d'Ivoire-Mali a été interrompu par la pluie.
Cette rencontre amicale opposant la Côte d'Ivoire au Mali dans le nouveau stade d'Ebimpe à Abidjan a été interrompue hier par un orage rendant la pelouse totalement impraticable à 4 mois du coup d'envoi de la CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la pelouse en fin de première période et pendant la mi-temps, empêchant la reprise de la rencontre dont le score était de 0-0. Selon des images de la télévision nationale, la pelouse était gorgée d'eau. Située en banlieue d'Abidjan, le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, une enceinte de 60 000 places a été construite pour la CAN 2023 et qui doit notamment accueillir la finale. La compétition, qui doit se tenir du 13 janvier au 11 février 2024, se déroulera dans 5 autres stades, à Boaké, dans la capitale Yamoussoukro, à Korogo, à San Pedro et au cœur d'Abidjan.
Merci Yacouba. «
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus, avec de nombreuses attaques perpétrées çà et là. Les groupes armés passent à l'offensive. En quelques jours déjà, les camps de Bamba, Gao et Bourem et le bateau Tombouctou ont été la cible d'attaques à l'arme lourde. Les populations de la région sont très inquiètes. De Gao, notre correspondant Boubacar Touré.
Après les attaques perpétrées contre le camp militaire de Bamba dans le cercle de Bourem et contre le bateau Tombouctou entre Bamba et Rarous le jeudi dernier, c'est le camp militaire des Fama près de l'aéroport de Gao qui était la cible d'une attaque complexe avec trois véhicules piégés le lendemain vendredi 8 septembre 2023. Ce matin donc, c'est la ville de Bourem qui a été attaquée par des hommes lourdement armés. Si nous n'avons pas encore de bilan officiel des camps militaires de Bamba, Gao et Bourem, le bilan de l'attaque du bateau Tombouctou serait de 49 civils et 15 soldats tués selon un communiqué des autorités du pays. Face à la reprise de la guerre entre les groupes armés et les Fama, nous avons interrogé certaines personnes dans la ville de Gao.
La situation elle est critique. Nous avons montré nos limites. Malgré les équipements que nous sommes en train d'avoir, nous avons montré nos limites. Une négligence de la part du régime militaire, donc je ne peux pas comprendre comment on peut avoir des informations sur une attaque. On ne prend pas les mesures pour contrer cette attaque. Il y a seulement une négligence, donc ça veut dire que les villes du Nord peuvent tomber à tout moment. Si on ne change pas de stratégie, ça peut tomber à tout moment.
Le camp de Gao, c'est l'un des premiers camps les plus stratégiques du Mali. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer peut-être des morts et des blessés dans le cercle de Bourem. Les ennemis de la nation ne sont plus dehors, ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, c'est ce qui est en train de créer toute cette panique, tout ce chaos. C'est pourquoi quand on fait un peu allusion à l'attaque du camp de Gao, il faut reconnaître que la plupart des assaillants sont des militaires. Ils sont dans les rangs de l'armée. La situation est critique, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais moi, je pense que nous devons avoir raison gardée.
C'est vraiment alarmant. La guerre, c'est pas bon. Ce qui s'est passé, on a vu beaucoup de morts. Moi, je suis venu à Gao pour les vacances. Mais malheureusement, il n'y a pas de route, car je vais retourner chez moi. Tout ça là à cause de ce qui est en train de se passer. Je demande aux autorités de prendre les dispositions.
C'est ainsi que le chef de l'exécutif régional, le général Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao, a pris deux décisions importantes à ses yeux. D'abord, un couvre-feu instauré sur toute l'étendue de la région de Gao à compter du 9 septembre 2023 et pour une durée de 30 jours, de 20h à 6h du matin. Puis, une autre décision ainsi libellée. La circulation des véhicules non immatriculés, des véhicules Land Cruiser et des véhicules teintés est fortement interdite entre les villes, villages, hameaux et campements sur toute l'étendue de la région de Gao. Et que seuls les véhicules militaires sont exemptés. Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre poursuit la décision. Les contrevenants à ces dispositions s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Conclut la décision du général gouverneur de la région de Gao. En tout cas, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour et les populations sont très inquiètes. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, des groupes armés ont mené mardi une offensive contre l'armée à Bourem, mais avec l'appui de l'aviation malienne, la ville de Bourem est repassée sous le contrôle de l'armée. Il y a quelques jours, c'était le camp militaire de l'aéroport de Gao qui avait subi une autre attaque pendant que l'aéroport de Tombouctou est fermé après des tirs d'obus. Sur tous ces risques sécuritaires dans la région, Idriss Fall a joint à Bamako Sekou Tangara, directeur de la chaîne Africable.
De mon point de vue, il y a deux explications possibles. La première, c'est que l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger signé en 2015 partait déjà de l'aile. Il y avait eu des blocages au niveau des grades, notamment les grades des combattants de l'ex-rébellion. Il n'y avait pas eu d'entente à ce niveau-là avec le gouvernement du Mali. La deuxième explication, c'est lorsque le Mali est parvenu à avoir la fin du mandat de la MINUSMA. Il a été prévu que les emprises qui étaient sous le contrôle de la MINUSMA soient rétrocédées à l'armée malienne. Et c'est pas du goût de la SEMA. Ceci ajouté au problème de grade, à la frustration liée au problème de grade. Et la SEMA essaie vraiment de se faire entendre. Si vous remarquez, la plupart des attaques aujourd'hui sont revendiquées explicitement par la SEMA, ce qui n'était pas le cas lors des précédents moments.
Et mais pourquoi, en fait, les anciens rebelles Touareg ne veulent pas que l'armée malienne reprenne les camps de l'ONU?
Si on se met dans la posture de la SEMA, elle est sur l'accord, le cessez-le-feu unilatéral qui avait été signé sous l'égide du président Abdelaziz de la Mauritanie à l'issue de la visite de Moussa Mara le 21 mai 2014. Vous vous rappelez que l'armée malienne avait été défaite et que le président Ibeka à ce moment-là a demandé un cessez-le-feu unilatéral signé sous l'égide de la Mauritanie. La SEMA est juste là dans cette configuration. Elle pense que personne ne doit bouger de ses positions. Et SEMA et le gouvernement du Mali, tout le monde doit rester sur ces postulats-là. Et il y a une lecture différente de cela par le gouvernement du Mali qui pense que c'est une résolution de l'ONU qui lui permet aujourd'hui de récupérer les emprises laissées par la MINUSMA. Et moi, je pense que c'est comme si on est en train de vouloir jouer à la distraction, parce que après la libération des emprises de Obosabou de Ber, l'armée malienne doit remonter beaucoup plus loin vers le nord et l'est, en réoccupant cette fois-ci celle de Agelog, celle de Kidal et celle de Tessali. Et on sait que si on reste dans la configuration actuelle, la confrontation pourrait être inévitable à ce niveau-là.
Mais Kidal veut conserver son statut particulier jusque-là, alors.
Exactement, Kidal veut constituer son statut particulier. Elle est toujours peut-être dans la configuration d'avoir un président régional élu au suffrage universel direct, configuration qui fait que l'État du Mali a un contrôle, mais seulement a posteriori. Et moi, je pense que nous sommes dans des différentes appréciations et de l'accord et du cessez-le-feu de 2014. Si l'armée et le gouvernement du Mali pensent qu'il faut réunir tout cela, il faut se conformer à la dynamique des Nations Unies, la CEMA pense que ce qui a été signé et que tout le monde doit respecter sa position. On est dans une divergence de lecture sur une situation donnée.
Sekou Tangara, directeur de la chaîne Africable à Bamako.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 90.9 FM.
Après le coup d'État du 26 juillet au Niger, la CEDEAO a mis en place une série de sanctions telles que les interdictions de voyage et un gel des avoirs, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des relations commerciales et bancaires régionales, entre autres. Des sanctions qui affectent aussi les populations et accentuent la crise humanitaire dans le pays. Pour en parler, Mohamedou Houmfa a joint Mokhtar Daouda Abbas, est responsable des opérations de Médecins sans frontières au Niger.
Ces sanctions sont à la fois à cibler des autorités du gouvernement, telles que les interdictions de voyage, les gels des avoirs, mais aussi c'est une sanction collective, si je peux me permettre de le dire, surtout avec la fermeture des frontières terrestres, aériennes, la suspension des relations commerciales et bancaires régionales, donc qui impactent l'économie du pays et sa population. Aujourd'hui, donc voilà, avec ces sanctions, ça commence à faire effet. Et on assiste déjà sur le terrain de voir l'augmentation des prix de certains denrées alimentaires, surtout des aliments qui sont importés, à savoir le riz, l'huile, le sucre, ainsi de suite.
Alors, pour rester dans le domaine de la santé, puisque c'est le domaine d'action prioritaire de Médecins Sans Frontières, quelles sont les conséquences de ces sanctions?
Bon, les conséquences de ces sanctions, donc, dans un premier temps, avec les fermetures des frontières, donc plus rien n'entre dans le pays. Donc, on parle de produits de première nécessité, donc des produits alimentaires, des médicaments. Ces sanctions aussi, ça touche l'électricité, parce que 70% de l'électricité que le pays, que le Niger consomme, provient du Nigeria. Donc, dans les 8 régions que le pays dispose, il n'y a que 2 régions qui sont autonomes, la région et la région d'Agadez. Donc, ce qui fait que Déjà, si je peux me permettre de le dire, donc ça impacte les petits commerces, le fait qu'il n'y ait pas d'électricité. Et puis, de toute façon, on sait que l'électricité aussi, c'est quelque chose qui est utilisé par des structures hospitalières. Donc, ce qui fait qu'avec la coupure d'électricité, bien sûr, les hôpitaux aujourd'hui utilisent, fonctionnent en plein régime, donc avec des générateurs et des carburants. Et on sait qu'on a besoin d'électricité aussi pour faire fonctionner les chaînes de froid, les vaccins, ainsi de suite. L'électricité aussi pour pouvoir faire fonctionner certains matériels médicaux. Voilà, on est en pleine période de pic de paludisme. On sait que donc les structures comme la pédiatrie, ainsi de suite, on a de plus en plus des cas en augmentation. Bien sûr, même si ces structures, comme je le disais tantôt, disposent des groupes électrogènes, mais l'accès au carburant et maintenance peuvent devenir problématiques lorsque c'est la seule source d'énergie disponible.
Alors, dans ce contexte, quelles sont les attentes de Médecins Sans Frontières vis-à-vis des autorités nigériennes et vis-à-vis de la communauté internationale?
Bon, les mesures qui visent à asphyxier l'économie d'un pays, c'est beaucoup plus les pauvres qui payent les pots cassés. Donc, du coup, on appelle les autorités, surtout la CEDEAO, à revoir leurs positions pour permettre qu'il y ait vraiment libre échange donc voilà le Niger avec les pays voisins, même si je sais qu'il y avait eu des négociations donc depuis mi-août pour faciliter un peu l'accès humanitaire à travers le Bénin, de certains items médicaux humanitaires à travers le port de Bénin et de Togo. On souhaiterait que cela puisse être un peu plus large pour que la population puisse en bénéficier.
Mokhtar Daouda Abbas, responsable des opérations de Médecins Sans Frontières au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Retour sur le tremblement de terre au Maroc, les recherches se poursuivent, mais les espoirs s'amenuisent. Notre correspondant au Maroc a tendu son micro à un rescapé d'origine ivoirienne et raconte les moments d'effroi après la catastrophe.
Mon nom, c'est à l'état civil, c'est Koumina Nguessan Léon, plus connu sous le nom de Marvel House, artiste, chanteur, musicien. Je suis à Marrakech depuis environ, on va dire maintenant, un an. Ça a été une expérience assez spéciale. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Le vendredi 8 septembre, j'étais, on va dire, aux environs de 23h, 23h15, 23h20. Et voilà, nous, on s'apprêtait pour le boulot. Puis bon, la maison a commencé à bouger. Pour moi, c'était quelque chose d'assez traumatisant. Dans les débuts, on était affolés, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait moi, il y avait ma petite soeur et il y avait mon petit frère. Tout le monde a commencé à courir hein, dans tous les sens. Tous les habitants de la cité, tout le monde est sorti. D'autres sont sortis pratiquement à moitié nus, hein, faut le dire, parce qu'ils se faisaient tard. Voilà quoi, on s'est retrouvés en quelques secondes dehors. Par la grâce de Dieu, dans notre cité, on ne déplore pas de morts ni de décès et tout. Mais par contre, y a eu beaucoup de traumatismes. Les gens sont beaucoup traumatisés. Les gens, depuis, on va dire, que cet événement est arrivé, on commençait à dormir dehors, dans les jardins, parce qu'il fallait s'éloigner le plus possible des maisons, des agglomérations. Et les gens se disaient, peut-être qu'il peut avoir une réplique, ça peut reprendre. Durant 3 jours, hein, les gens ont passé la nuit dehors et ils étaient encore traumatisés jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à la communauté subsaharienne? Est-ce qu'il y a eu des victimes, des morts?
Pour l'instant, il faut dire la vérité, on n'a pas vraiment des nouvelles par rapport à la communauté subsaharienne. Bon, pour l'instant, non, c'est plus, côté marocain, on voit des gens qu'on fait sortir sous des décombres encore dans des petits villages parce qu'ils habitaient, bien sûr, des agglomérations qui n'étaient pas assez solides, et tout. Donc, du coup, quand ça a tremblé, eux, c'est... Ils n'ont pas eu beaucoup de chance et tout, et c'est vraiment dommage, on déplore vraiment ça. Voilà.
Koumina Nguessan Léon, un artiste d'origine ivoirienne vivant au Maroc. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia au micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnou et à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.